diffusée tous les jours, de 10h à 11h et en direct toute cette semaine. Les Nouveaux Chemins sont réalisés par Laurence Millet, avec Vincent René à la technique, et préparés par Geneviève Méric, Géraldine Mosna-Savoie, Julien Tricard, Mathilde Unger et Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera d'Aristote tout à l'heure avec Sophie van der Meren à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins. Suite et fin pour nous, ce vendredi, d'une semaine sur l'improvisation dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, une semaine embellie par la présence quotidienne du pianiste Carole Beffa, dont l'imagination digitale ponctue de ses impromptus les conversations que nous improvisons sur l'improvisation. Après Clément Canon et Christian Béthune, qui nous ont l'un et l'autre parlé d'improvisation musicale, Frédéric Worms, c'est-à-dire Henri Bergson, et hier l'historien Nicolas Offenstadt, venu questionner le statut de l'improvisation en histoire et ce qu'il en reste quand on veut tout expliquer, c'est, pour finir et en guise d'ultime variation, Carole Desbarra, l'autre Carole du jour, notre Madame Cinéma, directrice de la diffusion des savoirs à l'École normale supérieure, en compagnie de qui nous allons revenir, autant que ma propre inculture le permet, sur l'improvisation au cinéma, de Chaplin à Cassavetes, en passant par Maurice Pialat, dont l'apparition finale dans son propre film « À nos amours » aurait, paraît-il, surpris les acteurs eux-mêmes. Une apparition qui, moins que dans « Shadows » de Cassavetes, mais beaucoup tout de même, donne le sentiment qu'en se livrant corps et image à l'improvisation, le cinéma ne singe plus le réel, ne le traque plus sous l'artifice d'une fiction, mais le touche du doigt. Spécule sur l'effet de réel immédiatement suscité par le recul des contrefaçons, comme s'il en avait la nostalgie. Que vous inspire à cet égard, Carole Beffa, la nostalgie du réel ? On vous écoute.
What you want to come here for, Dennis? This joint is nothing but a place for a bunch of sexless women who don't have any love in their life. A lot of big-tailed professors. A lot of creeps to show off how much they know.
You couldn't be wrong, though.
I suppose professors don't come here, huh?
Well, I didn't say that.
All right, Dennis, look at that. I suppose you can tell me what he's about, huh, genius?
He's a statue.
I know he's a statue, Dennis. What kind of a statue? I know he's a statue.
Well, Tom, I don't know everything.
You know something, Dennis?
Yeah?
You don't know nothing.
Oh, yeah? Well, what do you know?
A lot more than you do.
Yeah? Well, what'd you come here for if you know so much? You have no respect for art. No respect at all.
You listen to me, Dennis. You're nothing but an ignorant slob, Dennis. A little ignorant slob. I went to college, Dennis.
You?
En dépit de toutes les nuances qui séparent ce qu'on pourrait nommer pompeusement l'école de New York du free cinéma anglais et des tentatives de Jean Rouch, un style de cinéma nouveau se crée outre-Atlantique aussi bien qu'à Londres et Paris. Les promoteurs de ce mouvement, sans se concerter le moins du monde, ont en commun le souci d'un réalisme poussé jusqu'à la manie de l'improvisation et le mépris des règles techniques. Tout ceci en vue d'atteindre à une vérité toujours plus grande. Auprès de leur méthode, le néo-réalisme du bon vieux temps prend des allures de cinéma en dentelle.
Put it on a Christmas card, just a mask on a card. Won't that be wild?
Don't send one to me, pal.
Look, Tom, were you cool that you know what you're talking about?
I suppose you really understand that.
Voilà un article de Michel Mardor, Carole Desbarat, dont le nom vous est familier, à l'occasion de l'apparition de Shadows de Cassavetes. Un drôle de film, un film vraiment étrange, un film étrange ou étranger en tout cas, qui donne vraiment le sentiment d'une étrangeté profonde. Ce qui d'ailleurs est d'autant plus étrange qu'il prétend au fond restituer le réel lui-même. Il y a quelque chose dans ce film, c'est ce goût de l'improvisation, l'incontestable sincérité de son réalisateur, ou manifestement cette sincérité, ce goût de l'improvisation produit un effet de réel et laisse en même temps le spectateur sur une impression d'étrangeté un peu hallucinée.
Ce qui est curieux, c'est que c'est encore vrai en 2011. Alors que le film date de 1959.
C'est vrai, quand on l'a vu la veille, c'est mon cas.
Ah, mais je pense que si on le revoit, enfin moi je l'ai vu il y a longtemps, je suis sûre qu'on a cette impression. Et je trouve très intéressant le lien que vous avez fait avec l'idée de nostalgie du réel. Et d'une certaine manière, l'improvisation de Carole Beffa, je trouve, pourrait presque, et c'est peut-être un paradoxe, théoriser cette question-là, alors que c'est une improvisation. C'est-à-dire que vous avez commencé par des harmonies extrêmement classique, et puis à un moment donné les accords se sont distordus, et puis vous êtes revenu à quelque chose qui était plus doux à l'oreille, plus habituel, ce qui ne veut pas dire moins beau bien évidemment. Et je me suis dit en vous écoutant qu'on avait là quelque chose qui pouvait être une réponse improvisée musicale à la question du réel tel que vous l'avez posé, mais aussi tel que Lacan la pose quand il dit que le réel est inatteignable. C'est-à-dire cette nostalgie que nous avons de la possibilité du réel, ce moment où nous croyons l'atteindre, et c'est peut-être l'œuvre d'art qui produit ce contact possible, et puis de nouveau ce retour à quelque chose de nostalgique, presque saudade, c'est-à-dire le fait que l'art va toujours nous promettre ce choc avec le réel, que peut-être l'affectif, les larmes dont vous parliez hier avec votre invité, vont éventuellement le provoquer, ou l'indignation, ou la colère, ou ce que le cinéma sait nous donner. Et puis qu'ensuite, quand nous allons ressortir de la salle, ou ressortir de notre lecture du DVD, nous allons nous retrouver avec le fait que nous ne l'avons qu'effleuré ou vu de loin. Et c'est vrai que Shadows, dans ce sens-là, provoque cette impression. Mais peut-être que Carole Beffa a envie de...
Mais oui, parce qu'on en vient ici à... Enfin, ce que vous dites implique l'ambivalence de la nostalgie, qui est le regret du réel, le manque du réel, et la découverte, quand on le saisit, que le réel n'est que lui-même, mais qu'à cet égard, la nostalgie, ou plutôt le retour vers le lieu que l'on regrette, n'est pas la solution de la nostalgie. Carole Beffa ne joue pas que des merveilles, il en dit aussi.
Ouh là là. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose que j'ai essayé de faire à partir de cette thématique, qui était de voir que la résurgence du connu, lorsqu'elle apparaît, fait entendre différemment ce qui pourtant était le même ou presque le même. C'est-à-dire que dans cette dialectique toujours présente dans un art du temps, comme l'est le cinéma, comme l'est la musique, entre ce qui est déjà passé et ce qui va se produire, je crois que la répétition ne sera évidemment jamais la même, puisqu'on a déjà entendu ce qu'on a entendu, et que donc la reprise au sens musical va toujours normalement nous apporter quelque chose. C'est pour ça qu'ici j'ai effectivement commencé par quelque chose qui était un peu fragile, des harmonies effectivement plutôt simples, classiques, vous l'avez dit, en essayant ensuite d'aller vers autre chose, et que ce retour à un certain classicisme, parce que mon esprit entre-temps avait, et puis j'espère aussi celui de l'auditeur, vagabondé vers d'autres régions, apportait une simplicité probablement troublée par ce qui s'était produit entre-temps.
Est-ce que cette intention, encore une fois, c'est toujours la même question, mais c'est pas grave. Est-ce que cette intention est reconstruite après coup, Carole Beffa? Est-ce que c'est vous qui analysez vos propres gestes en disant cela? Ou est-ce que ça vous est venu spontanément? Je rappelle encore une fois à nos auditeurs et à ceux qui prendraient la semaine en route aujourd'hui, à son terme quasiment, que vous ne saviez pas, avant que je formule l'expression, quel allait être le premier motif du jour, hein, nostalgie du réel.
Alors je pense que c'est en grande partie une reconstitution a posteriori. Sur le moment, j'ai effectivement imaginé, on va dire, de boucler la boucle. Mais je ne savais pas si j'allais retourner effectivement vers, on va dire, une zone géographique assez proche de celle du début, à la fin de l'improvisation. Je ne savais même pas si j'allais effectivement m'y perdre et me retrouver simplement à quitter l'improvisation à ce moment-là, ou bien si j'allais pouvoir aller vers autre chose. Donc je pense que c'est a posteriori que j'ai, entre guillemets, thématiser ça en disant que cette résurgence du connu pouvait éventuellement enrichir la vision qu'on pouvait avoir au tout début d'un certain classicisme, d'une certaine simplicité.
Alors, le film de Cassavetes, Shadows, est un film de jazz. C'est un film jazzistique, comme on dit, mais il me semble qu'il y a peut-être un point commun entre ce que dit Carole Beffa et le film en question. C'est le langage du corps. On a le sentiment chez Cassavetes, de la même manière que les prises de vue sont tributaires de la pellicule dont il dispose, d'un certain nombre de contingences qui devraient être au service d'une intention dans l'image, mais en réalité c'est l'image qui... l'image dépend des moyens dont on dispose chez Cassavetes, en tout cas pour Shadows. De la même manière, chez Carole Beffa, il y a l'idée qu'au fond, le corps ne s'égare jamais, hein, et d'une certaine manière rappelle l'esprit à l'ordre. C'est cette inversion chez à Montaigne, des rapports du corps et de l'esprit. C'est pas l'esprit qui gouverne le corps, c'est le corps qui gouverne l'esprit, l'esprit vagabonde, et puis le corps le rappelle à l'ordre. Il y a un langage du corps chez Cassavetes, dans sa manière de filmer, dans le grain du son, le son délibérément pourri, cette ambiance qu'il restitue. Il y a un langage du corps, une primauté du corps, de la matière sur l'intention, la signification, l'objectivité.
Ou bien c'est spinoziste et le corps et l'esprit sont la même chose. Mmh. Et moi, j'ai plutôt cette impression chez Cassavetes. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être ça la force subversive encore aujourd'hui du cinéma de Cassavetes. Il arrive en 59, il fait ce film avec des gens qui ne sont pas connus, dans un moment où le free jazz est en train de s'élaborer. C'est un travail qui se fait avec Charlie Mingus. C'est quelque chose qui va permettre aussi d'utiliser ce qui se fait en matière de théâtre, puisque Cassavetes connaît très bien le théâtre. La question du happening qui arrive. Il y a une ébullition à New York dans les années, deuxième partie des années 50. Et Cassavetes est issu de ça. Après, il y a sa propre culture, sa propre force. Effectivement, vous avez raison, corporelle, c'est sûr. Il y a tout ce qu'ils ont de dégaine magnifique, ces hommes et ces femmes, que Cassavetes commence à montrer dans Shadows. Mais si on se souvient ensuite de tout ce qu'a fait Gina Rowlands dans ce même sens, dans tous les films de Cassavetes, c'est issu de ça. Et on a l'impression que Shadows, c'est l'ouverture d'un monde nouveau. Et je pense que ce n'est pas un hasard si en 59, en France, on a des films qui sortent qui sont à bout de souffle, qui sont les 400 coups. C'est-à-dire qu'il y a aux États-Unis, en France, le même mouvement d'une jeunesse qui a envie de parler autrement du réel, qui a envie de s'y confronter. Et là, on retrouve tout ce que vous disiez sur le son, sur l'idée que, eh bien, on va faire en dehors du studio, on va faire avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire rien, puisqu'on est jeune et qu'on n'a pas d'argent. On va faire autrement que ce que
il a demandé de l'argent, d'ailleurs. On lui a envoyé 2 000 $. Finalement, le film a coûté 40 000 $. Mais bon...
C'est pas lourd, hein.
Non, c'est
voilà.
Pas lourd.
Et même puis, c'est 59, du 16 mm. Et puis, bon, voilà. Et donc, il y a cette idée de légèreté, d'extérieur, qui va être aussi à l'origine de la nouvelle vague française, qui est mise là, mais avec aussi cette rupture fondamentale qui est oser le mélange entre les noirs et les blancs. Dans la narration, il y a quelque
dans
chose...
Dans un film en noir et blanc.
Ah, mais oui, mais aussi, surtout, oser montrer des noirs culturellement intéressants, qui ne sont pas justes, la mamie de Autant d'emporte le vent.
Et qui jette les blancs de chez eux, hors de chez eux. C'est-à-dire, un jour, un blanc est un intrus. Je ne sais pas si on peut en parler comme d'un blanc ou d'un noir, du coup.
Mais
je me demande
si. Que la sœur est plus blanche de peau et en même temps, on sait qu'elle est noire.
Enfin, un mystère. Elle est blanche et son frère est noir, noir comme l'ébène. Et effectivement, ils sont frères et sœurs. Ce n'est pas frères et sœurs d'adoption.
Et ce qui est très curieux, c'est que cette thématique-là, qui est magnifique et qui ressort à ce qu'on appelle dans la culture américaine le passing, l'idée aussi que des noirs qui sont blancs de peau veulent parfois se faire passer pour blancs, avait été traité à peine 4 ans avant par Douglas Sirk dans Mirage de la vie, mais de manière complètement différente. Et quand on compare les deux, on se dit, mais c'est incroyable comment il a fallu cette audace à Cassavetes qui va avec l'improvisation. C'est lié. C'est-à-dire que ce qu'il raconte est lié avec la forme qu'il a choisie pour raconter cette rupture à tous les niveaux.
Vous avez parlé d'un monde nouveau, Carole Desbarra. Et si ce monde nouveau, c'était tout simplement le monde de l'art, c'est-à-dire notre monde, dépouillé des artifices dont le recouvrent ordinairement justement les moyens de mise en scène, de fiction, de montage, de construction. Après tout, le film s'achève sur une profession de foi. Hein. « The film you have just seen was an improvisation ». Donc voilà, la profession de foi, l'ultime profession de foi. Et dans le même temps, le fait qu'il éprouve le besoin de le dire jette un doute, d'une certaine manière, sur son intention. C'est comme si on criminalisait le refus de l'évidence au point de jeter un doute sur l'évidence elle-même. Est-ce que le cinéma, est-ce que les innovations de Mingus dans le film de Cassavetes, la caméra, la façon dont il filme, encore une fois, la nature du son, le timbre du son, etc., est-ce qu'au fond, il n'y a pas un artifice supérieur jusqu'à la culmination et l'ultime phrase qui serait de dire c'est une improvisation, mais qui en même temps montre qu'il faut le rappeler pour qu'on le sache. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'au fond, en affirmant à la fin du film que ce film est une improvisation, Cassavetes ne marque pas l'échec de sa tentative?
Non, pas forcément. Il rajoute plutôt un artifice, comme vous l'avez dit, parce que l'improvisation n'est absolument pas dénuée d'artifice, au contraire. Elle a besoin des artifices, elle s'appuie sur des artifices pour les dépasser et aller ailleurs quand on est dans le meilleur de l'improvisation. Roland Barthes disait une chose magnifique sur le sujet, il disait « Il n'y a rien de plus spontané que le stéréotype. » Quelqu'un qui improvise sans travail, sans force, sans génie, ne reproduira que des stéréotypes. Et il me semble que toute la semaine, vous avez démontré ça sans arrêt. Effectivement, que ça ne suffit pas, l'improvisation. Ça n'est pas une valeur. Mais l'improvisation, lorsqu'elle est matinée de travail préalable et de mémoire digitale, comme dit Carole Beffa, et d'autres talents, à ce moment-là, elle peut nous faire avancer et aller dans un ailleurs inconnu. Et c'est ce que nous cherchons avec l'art. C'est à ressentir le réel différemment.
Et c'est précisément le réel qui est l'objet. Hein. On va entendre « Rien n'est plus spontané que le stéréotype ». Merci de cette phrase que j'entends comme un cadeau. Effectivement, quand quelqu'un prétend parler librement, c'est-à-dire sans savoir, sans connaissance préalable, c'est en général le moment où il enfonce une porte ouverte, où il énonce un lieu commun. On aura l'occasion de revenir sur ce paradoxe sur lequel on travaille souvent dans les chemins. On va entendre ici un texte de Georges Sand, dans lequel elle décrit une improvisation qu'elle conclut sur une phrase fondamentale des jeunes improvisateurs qui était plus que naturelle, qui était, dit-elle, la nature même. On va entendre ce texte accompagné justement par Carole Beffa qui va improviser sur un texte que naturellement il n'a pas lu.
Il y a une douzaine d'années que nous trouvant ici en famille durant l'hiver, nous imaginâmes de jouer une charade, sans mots à deviner, laquelle charade devint une scénette et rencontrant au hasard de l'inspiration une sorte de sujet, finit par ne pouvoir pas finir tant elle nous semblait divertissante. Elle ne l'était peut-être pas du tout. Nous n'en savons plus rien, il nous serait impossible de nous la rappeler. Nous n'avions d'autre public qu'une grande glace qui nous renvoyait nos propres images confuses dans une faible lumière et un petit chien à qui nos costumes étranges faisaient pousser des cris lamentables. Tandis que la brise gémissait au dehors et que la neige, entassée sur le toit, tombait devant les fenêtres en bruyantes avalanches. C'était une de ces nuits fantastiques comme il y en a à la campagne. une nuit de dégel assez douce avec une lune effarouchée dans des nuages fous. Nous n'étions que 6, mon frère et moi, mon fils et ma fille, une jeune et jolie parente et un jeune peintre ami de mon fils. Excepté ma fille, qui était la plus jeune et qui s'amusait fort tranquillement de ce jeu, nous nous étions tous peu à peu montés. Il est vrai qu'il y avait là un délicieux piano dont je ne sais pas jouer, mais qui se mit à improviser tout seul sous mes doigts, je ne sais quoi de fantasque. Le lendemain, la pièce recommença, c'est-à-dire qu'elle suivit son cours fantastique et déréglé avec autant d'entrain que la veille. J'étais vivement frappée de la facilité avec laquelle nos enfants, l'aîné avait alors une vingtaine d'années, dialoguaient entre eux, tantôt avec une emphase comique, tantôt avec l'aisance de la réalité. Là, ce n'était pas de l'art, puisque la convention disparaissait. Il n'y avait pas ce qu'en langage d'art théâtral on appellerait du naturel. Le naturel est une imitation de la nature. Nos jeunes improvisateurs étaient plus que naturels. Ils étaient la nature même.
Chez toi, tu respectes.
Bah oui, justement, je suis chez moi. Je te dis, on est en fin de bas, je peux faire visiter.
T'as raison, je suis chez moi, je vais manger un petit gâteau, tiens. La charotte. Tu vas me laisser manger en paix, non? Mais bah, je te connais par cœur. Tu vas, dans 2 secondes, tu vas faire... Bah, tu feras pas... Je vous demande pardon, mais je ne savais pas que j'allais vous déranger ce soir dans cette petite fête. Je croyais au contraire arriver et trouver la maison vide.
Mais vous ne me dérangez pas.
Ah, mais vous êtes monsieur... Vous êtes le beau-frère.
Oui.
Vous êtes le frère de ma mère. Mais j'ai l'impression que mon fils, il vous épouse autant que votre sœur.
C'est possible, posez-lui la question.
Alors toi qui monte toujours sur des grands chevaux, là, c'est avec ce genre de gens-là que tu pactises, là, après avoir la fourrure toute ta vie, et que tu me donnes des leçons, tu me regardes comme ça, vous êtes pas mal, quand même. Puis je suis qu'un pauvre homme inculte, mais il m'arrivait, je fouillais pas dans ses affaires, mais il laissait traîner des revues, et j'ai lu quelquefois votre revue, vous écrivez remarquablement bien, d'ailleurs. Mais vous aviez même fait, je crois, un numéro spécial quand il a fait ce truc à la Scala. Et puis quelques mois après, vous avez laissé paraître un truc assez ignoble quand même pour toi. Nous, on traînait dans la boue, mais c'était sous couvert d'interview, d'objectivité. Il y avait une espèce de type qui te donnait 3 sur 20, enfin, qui disait que t'étais un minable, tout ça.
Mais il y avait le droit de réponse.
Tu acceptes tout ça, le droit de réponse?
Vous auriez même pu répondre pour lui.
Ça me regarde pas.
Ça me regarde pas. Et pourtant, on le regarde. C'est Piala, Maurice Piala, à la fin d'À nos amours, qui apparaît dans son propre film. Enfin, il était déjà présent. Mais surtout, il fait irruption lors d'un dîner. Et la scène devient totalement improvisée, puisque les acteurs eux-mêmes, paraît-il, hein, vous allez confirmer ou infirmer ce que je dis, mais les acteurs eux-mêmes ne savaient pas qu'il allait apparaître et donc se sont vus contraints d'improviser, ce qui permet de mettre en abîme d'ailleurs le propos de Piala lui-même quand il dit « Je vous dérange là ». On ne sait pas si c'est le personnage du père joué par Piala qui dérange les personnages du film ou si c'est le réalisateur lui-même qui dérange ses propres acteurs. De sorte que l'improvisation ici a valeur de mise en abîme, et pour le coup, on est de plein pied dans ce que George Sand, d'ailleurs, appelle l'aisance de la réalité, où l'effet de réel joue à plein ici, Carole Desmarins.
Tout à fait. Bon, c'est un exemple qui est particulièrement fort sur le sujet. En fait, il n'y avait qu'apparemment 2 personnes qui étaient au courant de l'apparition de Piala, d'autant plus qu'il faut savoir que, normalement, le rôle du père devait être mineur dans ce film, Et ils ont cherché un acteur pour le remplir. Ils ont pensé à Claude Berry, ça aurait été peut-être un peu incestueux vu les rapports que la tribu avait entre soi. Et finalement, Piala a dit « je vais le faire ». Je vais faire ce rôle. Et puis, visiblement, au fur et à mesure du tournage, il reculait le moment de tuer le père, son propre personnage. Jusqu'à, à la fin, ne prévenir personne, sauf le chef opérateur quand même, parce que sinon, ce n'est pas possible. Et puis aussi Jacques Fieschi, qu'on a entendu, parce qu'il lui règle son compte. Jacques Fieschi joue le rôle d'un critique dans le film. C'est le beau-frère que l'on entend. En fait, Jacques Fieschi, on le sait, est quelqu'un qui a écrit une magnifique revue qui s'appelait Cinématographe et qui était très, très, très admiratif de Piala. Donc, ce n'est pas un compte réglé à l'homme Jacques Fieschi, mais à tous les critiques auxquels Piala en veut parce qu'il les trouve justement très loin du réel. Donc, l'ensemble de la famille réunie autour de la table et d'un silence assourdissant. C'était ce qui me frappait en réentendant le passage là maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont 6 ou 7 autour de la table au moment où Piala, qui n'est pas prévu, arrive, puisqu'en fait ce qui s'est passé apparemment, c'est qu'il était sur le plateau et dirigeait cette scène de repas qui se divise en 2 fois 7 minutes, grosso modo. Il sort de la scène, du plateau. Il repasse par un couloir où il avait laissé son imperméable, il met son imperméable et il revient sur le plateau.
Comme pour présenter un appartement qu'il s'apprête à vendre,
voilà.
Au fond.
Et hein, c'est un véritable revenant, puisque justement, il fait irruption dans la vie de cette famille qui essayait de faire sans lui. Et c'est d'une violence sans nom. Parce qu'évidemment, on l'a compris, il mange un gâteau avec beaucoup de compunction et sûr de son effet. Ce qui est très violent.
Et il sème la zizanie à table.
Complètement. Mais ce qui est très violent, c'est que c'est à double niveau. Et c'est bien ça, la force de l'improvisation dont vous parlez. C'est qu'effectivement, les acteurs tombent sous l'effet de choc que leur fait l'avenue du personnage qui normalement n'était pas prévu. Et évidemment, les personnages sont sous ce choc également. Et l'effet de réel vient probablement de la rencontre entre ces deux moments dans lesquels peut-être la nature dont parle George Sand apparaît. C'est-à-dire l'étincelle très violente qui se produit. Et c'est aussi ça parfois l'improvisation. C'est provoquer le réel. Et c'est ce qu'a fait Piala. Et rarement les cinéastes l'ont fait autant que ça et de manière aussi ouverte que ça. Il y aura un autre exemple qui va dans le même sens de la question de la direction des acteurs, qui est celui de Pasolini.
Pasolini. J'allais vous dire Altman, moi. Je pensais
oui,
Altman, mais Pasolini, oui.
Mais Pasolini, un jour, Ninetto Davoli m'a raconté que, en fait, lorsque Pasolini a dirigé sa propre mère, qui jouait la mère du Christ au pied de la croix dans l'évangile selon Matthieu, il lui a dit, au moment où elle devait arriver vers la croix et pleurer, il lui a dit « Souviens-toi de ton fils, son fils qui était mort. » Et donc, évidemment, cette femme est arrivée en larmes au pied de la croix. Donc on a là quelque chose d'un travail d'acteur qui se discute, et moi j'ai pas envie de porter de jugement de morale là-dessus, mais qui correspond...
Qui invoque le réel pour contrefaire d'autant mieux une émotion. Oui.
Tout à fait.
Altman dit ceci, je sais qu'à la mi-mars, il parlait de shortcuts, je sais qu'à la mi-mars, je vais diriger Julia Roberts et Tim Robbins, et j'ai écrit les grandes lignes de ce que les scènes où ils apparaissent devront exprimer. Mais la scène qui sera sur l'écran, non, je ne suis pas sûr que ce soit Shortcuts d'ailleurs, je ne me souviens pas de Julia Roberts dans Shortcuts, mais peu importe. La scène qui sera sur l'écran ne sera jamais celle que j'ai conçue après qu'ils l'auront interprétée. Car lorsque nous serons tous les trois sur le plateau, ils me feront don de leurs idées, et la scène sera créée au fur et à mesure que nous la tournerons. Plus j'ai confiance dans un comédien, plus je le force à créer. Les gens viennent me dire « c'est merveilleux ce que vous avez fait avec un tel », mais tout ce que j'ai fait avec un tel, ce fut d'insister pour qu'il invente. Si l'on accorde des qualités à mes films, ajoute Altman, il faut admettre qu'elles viennent de l'alchimie de l'ensemble. Je dépends de mes acteurs. Quelqu'un commence, un autre réagit, et avant même que l'on se rende compte, quelque chose s'est passé. Le film est envoyé au laboratoire, nous regardons les rushs et sommes témoins d'une scène merveilleuse. Qui est l'auteur de ce que nous voyons à l'écran, nous tous ? Or, ce que Altman montre ici, de la même manière qu'on parlait du corps et de l'esprit, et d'une soumission finalement de l'esprit au corps, ou alors d'une réduction ou d'une extension du corps à l'esprit, là, Altman dit « je dépends de mes acteurs ». C'est l'esprit, l'intention, le deus ex machina, le réalisateur, qui dépend de la matière de ses acteurs. Et au fond, la matière devient en elle-même créatrice.
C'est sûr. Et on peut même aller plus loin. Le cinéma est un art collectif. Il dépend aussi de son chef opérateur. Il dépend aussi, si je pousse, de son mixeur. Parce que quand ils ont vu la scène, une fois tournée, dans la salle des rushs, ils ont vu un état de l'improvisation. Et lorsque cette scène va être montée, et dans Shortcuts, effectivement, il y a un travail de montage absolument hallucinant.
Extraordinaire. C'est un film extraordinaire.
Il est évident que l'improvisation est retravaillée. Et que là, on perd de très très loin l'idée de nature. On est complètement dans l'artifice, peut-être pour rejoindre un autre effet de réel et de nature. Mais ça va très loin, c'est vertigineux dans la fabrication du cinéma. Et on a tort souvent de réduire, et je vais le faire moi-même, donc là je m'en excuse juste, de réduire le cinéma à réalisateur-acteur. Les techniciens sont... Lorsqu'ils sont de grands techniciens, ils sont essentiels, il faudrait le dire. Je veux dire que, par exemple, dans le documentaire, par exemple, qui cherche véritablement le réel, vous avez l'intervention de certains techniciens. Claudine Nougaret, qui travaille avec Raymond Depardon, lorsqu'elle est sur le plateau d'urgence avec lui, c'est-à-dire dans les salles des urgences de l'Hôtel Dieu de Paris, à un moment donné, voit qu'une porte va se fermer et elle... Sans en parler à Depardon, elle m'a dit « j'y vais ». C'est-à-dire, elle a accompagné le son de la porte avec la perche pour qu'il soit très violent et qu'il ne diminue pas et qu'il donne l'impression d'enfermement. Ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'improvisation. C'est resté dans le film. On a 1000 exemples comme ça. Il faudrait ne pas oublier les grands techniciens.
D'initiative fidèle.
Oui.
Il y a 3 sens à réaliser, Carole Desbarra. Rendre réel, c'est le sens premier. Mettre en scène, naturellement. Réaliser un film, hein, comme on dit. Et l'anglicisme, prendre conscience. Et quand Cassavet dit que sans improvisation, il n'y a pas d'art possible, je me demande si à cet égard, il ne reprend pas à son compte ces 3 significations. L'effet de réel, l'art de la mise en scène, malgré tout, hein, qui est réel chez lui, dans la mesure où il ne cesse d'ailleurs lui-même de travailler au montage. Et puis, prendre conscience, c'est-à-dire donner à chacun la prise de conscience et le sens de l'initiative qui appartient aux acteurs comme aux techniciens.
Oui, bien sûr. Et puis, il en prend conscience aussi dans une époque historique donnée, c'est-à-dire dans un moment où c'est senti comme une véritable rupture, fracture, comme je le disais tout à l'heure, alors que dans les premiers films à partir de 1895, on improvisait tout le temps. Et la notion d'improvisation n'arrivait même pas. Pourquoi ? Parce que vous aviez des gens qui sortaient des studios avec une voiture, un accessoire, une petite bande de comédiens rompus à l'exercice, peut-être à la rigueur un petit mot ou un tout petit pitch qui permettait de savoir ce qu'on allait raconter, et on improvisait. Et tout le burlesque du début, du tout début du cinéma a fonctionné comme ça. Et puis plus les bandes se sont rallongées, et lorsque vous arrivez à 20 minutes, eh bien plus vous avez eu besoin d'un scénario. Donc cette notion d'improvisation qui était, ouvrez les guillemets, naturelle, même pas dite, même pas pensée, dans les tout débuts du cinéma, elle devient revendiquée avec La Nouvelle Vague, avec Cassavetes. Là, dans les années 2000 et quelques, vous avez des jeunes cinéastes débutants à la FEMIS qui redécouvrent la notion d'improvisation et qui ont l'impression d'être en rupture totale. Donc, on est dans les allées et venues d'une pratique artistique aussi.
Vous avez parlé de burlesque, vous avez parlé de documentaire. J'avais envie d'entendre parler, ou plus exactement, d'en venir à Sacha Guitry, d'abord parce que je l'adore, et ensuite parce que c'est une autre façon d'improviser, une façon hyper travaillée pour le coup d'improviser. Le problème, c'est que vous parlez de burlesque, on aurait pu passer les temps modernes. Vous parlez de documentaire, on aurait pu passer, par exemple, Récréation de Claire Simon. Et de sorte qu'on se trouve un peu au carrefour d'une émission improvisée et en pleine oscillation. Et à cet égard, je voudrais donc qu'on entende simultanément, puisque refusons de choisir, le temps presse, successivement, non pas simultanément, mais successivement, un extrait de Récréation de Claire Simon et, ce qui n'a rien à voir, encore que, un extrait de Faisons un rêve de Sacha Guitry. On va enchaîner les 2 extraits tout de suite. Écoutez.
Et zut alors !
Regarde !
Et zut alors !
Regarde Axel !
Et zut !
Myriam, elle est plus petite que Nathalie, elle sait faire Myriam. Et Nat, à son âge de 4 ans, Myriam, elle sait faire.
Viens voir. Papa, je vais.
Quand j'avais 4 ans, j'arrivais.
Attends, je vais essayer. Attends.
Voilà, je sais le faire, Adela. elle peut apprendre.
Répondez-moi, vous voulez plus me répondre. Mais pourquoi me faites-vous ça? Oh, pourquoi? Pourquoi me privez-vous de cette joie que j'escomptais, que je désirais? Plus que jamais de ma vie, j'ai désiré une chose, je crois. Allô? Elle ne veut plus me répondre. Eh bien, puisque tu ne veux plus me répondre, puisque tu m'infliges ce plaisir spécial et cruel, puisque par ta volonté, j'ai cette impression étrange de pouvoir te parler à l'oreille tout en étant loin de toi, eh bien, écoute, je vais en profiter pour te dire alors, pour te dire tous les mots qui me viendront, comme ils viendront, sans les choisir. Moi, tu sais, tiens-toi bien, fais attention. Tant pis si je te fais rougir, écoute-moi. Sais-tu ce que c'est? Sais-tu ce que c'est que d'être désiré, follement, incroyablement désiré, par un homme dans le... Allô? Oh, mais foutez-moi la paix, votre risette, boulon de Dieu. Mais non, c'est pas ici, monsieur. Mais je n'en sais rien, moi. Faites-moi les votre numéro correctement. Allez-vous-en, monsieur. Sortez, je vous chasse. Sortez, monsieur. Vous foutez une paire de claques, savez-moi la fin. Allô, chérie. Naturellement, on a coupé maintenant. Allô, madame. Allô. Allô, madame des réclamations. Vous m'avez coupé parce que 14h33. Je dis, vous m'avez coupé parce que 14h33. Non, je dis, vous m'avez coupé avec passé 14h33. Je suis toujours avec passé 14h33. Vous êtes sûr? Oh, soyez gentil, mademoiselle Rossonnel. Pourquoi c'est pas la peine? Vous êtes sûr qu'il est décroché, qu'on écoute? Mais laissez-moi placer un mot tout de même, voyons. Pourquoi en êtes-vous sûr? Ah!
Vous entendez la sonnerie dans l'appartement quand vous sonnez. Ah là là,
c'est
à profiter des conseils qu'on écoute.
Oh bah vous êtes gentil, madame, merci infiniment. Foutez-moi le camp, je veux dire. Au revoir, madame. Portez-vous bien, s'il vous plaît. Alors, vous êtes là, chérie? Chérie, vous êtes là? Oh, écoute, chérie, monsieur, vous êtes là, répondez-moi. Oh, puis j'en peux plus, moi, j'ai une crampe dans le bras. Non, c'est odieux ce que vous me faites là, vous savez. Méchante, pourquoi me faites-vous ça? Allô, écoutez mon amour, moi, si vous ne voulez pas me parler, tapez au moins sur l'appareil, faites quelque chose, enfin que je n'ai pas cette impression affreuse d'être seul et de parler dans le vide. Oh non, c'est pas bien, vous savez ce que vous me faites là, c'est honteux. Oh, et savez-vous ce que je vois en ce moment? Eh bien, je vois qu'il y a exactement 6 minutes que je vous parle et vous ne me répondez pas. Donc, déjà, vous pourriez être ici depuis 1 minute. Écoutez, mon amour, si vous ne voulez pas me parler, écoutez, alors j'ai une idée, tenez, écoutez-moi, penchez-vous sur votre appareil et faites comme ça. Fais le bruit d'un baiser, ça ne me le refuse pas, je t'en supplie. Mon amour, chéri, écoute-moi, j'ai les deux récepteurs. Je ferme les yeux, je tends vers toi mes lèvres, je t'en supplie, fais comme ça.
Claire Simon, Sacha Guitry, Carole Beffa, Carole Desbarra. cette succession de Claire Simon et de Sacha Guitry, ce mélange donc totalement improvisé, a le mérite au moins de montrer que l'improvisation peut nous entraîner vers des pistes tout à fait différentes. Le documentaire de Claire Simon, Récréation remarquable, montre des enfants dans une cour de récré. Et avec une scène, la petite Adéla, évidemment, dont le prénom n'est pas innocent dans l'équipe des Nouveaux Chemins. La petite Adéla souffre parce qu'elle n'arrive pas à sauter à la marelle, elle souffre beaucoup. Là, on est vraiment dans les faits de réel. Et puis avec Guitry, on est dans à la fois un texte hyper travaillé dont tous les trucs sont absolument prévus à l'avance et dans le même temps l'invention du one man show, c'est l'acte 2 de Faisons un rêve où il est 25 minutes seul en scène et au téléphone. Carole Desbarra.
Alors peut-être quand même les séparer si vous permettez. Récréation, oui c'est un documentaire, mais savez-vous que ce que vous entendez là est de la post-synchronisation faite par les enfants?
C'est pas vrai.
Si. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans la cour de récréation de l'école de la fille de Claire Simon. Et puis, elle a attendu le temps des récréations. Ça dure une demi-heure. Les enfants créent des histoires. Et il se passe cette chose extraordinaire qui, pour moi, est un des plus beaux moments de l'histoire du cinéma. C'est ces 17 minutes de la fin de récréation. La petite fille ne saute pas la marelle. Elle essaie de sauter du haut d'un banc. C'est un banc public qui a un petit rebord de 5 cm qui fait qu'il faut qu'elle se surélève pour arriver à le sauter. Elle n'y arrive pas, elle pleure, elle appelle sa mère. C'est le désespoir humain et c'est l'apprentissage. Et lorsqu'elle arrive à sauter, effectivement, moi j'ai vu au Centre Pompidou, lors de la présentation du film la première fois, j'ai vu la salle hurler et applaudir tellement il y a une tension du réel. Puisqu'on voit bien que c'est une petite fille qui ne joue pas, qui pleure et qui souffre pour de bon. Sauf que pour arriver à ça, Claire Simon est seule dans la cour de récréation, elle a sa caméra et elle n'a pas d'ingénieur du son. Le son est pourri. Donc il faut refaire le son. Et Claire Simon travaille avec les enfants qu'elle fait venir. Et quand on connaît Claire Simon, on ne s'étonne pas de la façon dont elle a travaillé. Elle leur a dit, c'est un travail que je vous demande, pas de cadeau. Vous faites ça parce qu'on a commencé un film ensemble, on le termine. Et ils ont post-synchronisé avec le temps que ça a demandé, qui a été un vrai travail pour les enfants. Et on arrive à cet effet de naturel qui vous a surpris.
Il existe une sorte de pays, écrit Claire Simon, très petit. Si petit qu'il ressemble un peu à une scène de théâtre. Il est habité deux ou trois fois par jour par son peuple. Les habitants sont petits de taille. S'ils vivent selon des lois, en tout cas, ils n'arrêtent pas de les remettre en cause et de se battre violemment à ce propos. Ce pays s'appelle la cour et son peuple, les enfants. Lorsque les enfants vont dans la cour, ils découvrent, éprouvent la force des sentiments ou la servitude humaine. On appelle cela la récréation. C'est remarquable.
Tout à fait, et c'est un très très beau film sur ce qu'est l'être humain, sa souffrance, comment ces enfants se font souffrir les uns les autres et comment ils apprennent à vivre ensemble.
Ouais, les auteurs de Microcosmos, à cet égard, n'ont pas inventé grand-chose. venons-en à Guitry, Carole Desbarat. C'est-à-dire à Faisons un rêve, hein, Sacha Guitry, Jacqueline de Lubac, on ne l'a pas entendu là, puisqu'elle arrive, elle est sur le point d'arriver. C'est l'acte 2 qui, je disais, l'invention du one-man show. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un homme est 25 minutes seul en scène et sans improviser, donne le sentiment qu'il improvise, en tout cas imagine tout ce qu'il raconte.
Alors là, on est dans l'improvisation du personnage et non pas de l'acteur. C'est-à-dire qu'en fait, Guitry se préparait largement ses interventions qui sont extrêmement écrites, extrêmement construites, mais le personnage est en train d'improviser des mots pour séduire. Et c'est quelque chose dont je pense qu'il faut parler à propos de l'improvisation. L'improvisation, c'est aussi une arme de séduction massive. Je pense que les hommes de radio, vous connaissez bien ça, puisque c'est effectivement, c'est votre travail, d'arriver à partir de votre propre recherche.
C'est une épreuve de nécessité, puisque nous n'avons pas le choix.
Voilà.
Donc, on est d'autant plus libre qu'on n'a pas le choix.
Voilà. Et en ce qui concerne Guitry, il se sert de son discours, de sa parole, de son flux de parole, de cette ébriété verbale dont parlait Philippe Arnaud, pour séduire. Et alors, il séduit une femme et ses spectateurs. Et ça, c'est la magie du cinéma.
C'est abominable.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Qu'est-ce que vous avez ?
Les morceaux de sucre, chérie. 1, 2.
3.
3. Oula, ruiné. Mon chéri, 3 morceaux. Bien. Et beaucoup de café ? Non, pas beaucoup de café. Moi, 2 morceaux seulement. Très peu de café, elle est déjà bien assez énervée comme ça. Voilà le café pour elle. Mais alors lui, il va avoir beaucoup de café parce que lui, il a su conserver son sang-froid. En revanche, elle aura tout le lait, presque tout le lait. Elle aura ça de lait, moins 10%, qu'il va garder pour lui comme intermédiaire. Maintenant, mon amour. Voulez-vous que nous cessions de blaguer un instant?
Ah, mais je blague pas, je vous jure.
Bon. Voulez-vous considérer que vous avez en face de vous un ami parfaitement loyal, honnête et dévoué?
Oui.
Vous voulez bien le considérer?
Oui.
Je vous en remercie. Eh bien, cet ami loyal et dévoué va vous poser une question.
Oui.
Peut-il espérer de vous une réponse absolument précise?
Oui.
Bien. Eh bien, les yeux dans les yeux, je vous le demande. Et je vous supplie de me répondre. Voulez-vous du beurre sur le pain?
Oh!
Carole Desbarat, vous avez dit tout à l'heure que Sacha Guitry séduisait, plus exactement le personnage joué par Sacha Guitry, le personnage de l'avocat, séduisait la femme de l'autre, en l'occurrence la femme d'un financier méridional, la femme de Rému, c'est-à-dire Jacqueline de Lubac. Et justement, non seulement il séduit la femme d'un autre, mais il séduit sa propre femme, puisque Jacqueline de Lubac et Sacha Guitry sont mariés à ce moment-là. Alors, sans réduire, évidemment, ce serait stupide et digne de Sainte-Bévue, sans réduire le film ou le synopsis ou le scénario à la propre vie de Sacha Guitry, force est de constater qu'il a fait jouer toutes ces femmes dans ses pièces, que lui-même interprétait les rôles principaux de ses pièces, il n'a jamais joué que ses propres pièces, et qu'en l'occurrence, peut-être y a-t-il un effet de réel qui se redouble du fait que Sacha Guitry dit mon amour à la femme qu'il aime.
Oui, bien sûr, mais on peut ne pas le savoir. Et surtout maintenant, si vous voulez. Je pense que les jeunes générations ne savent pas que Jacqueline de Lubac était la femme de Guitry. Mais ça n'empêche pas que la séduction est exercée. Et je pense qu'il y a là quelque chose de tout à fait particulier qui est comment, et je crois en particulier les hommes, se servent de la logorée, d'un flux verbal extrêmement délié pour séduire. Et moi, je suis toujours étonnée, quand je réentends Guitry, de me demander comment cette voix aussi efféminée arrive à séduire autant les femmes. Et c'est un précipité de l'art de séduire. Je veux dire que d'une certaine manière, le cinéma de Guitry, pour moi c'est un compliment, je sais que pour d'autres ça ne l'est pas, peut appeler ce que le grand Solaire ça fait au moment où il écrivait Femme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quand on est un homme que de mettre toute une fausse improvisation en marche, c'est-à-dire à partir d'un savoir, à partir de pratiques accumulées, pour faire que, en face, la femme soit séduite. Et d'une certaine manière, c'est évidemment utiliser plus encore le langage que le corps, et même si le langage traverse le corps, on le sait bien, et là, on a quelque chose qui est exceptionnel dans le cinéma. On a quelqu'un d'autre qui a fait ça aussi, c'est Chaplin, dans un film qui s'appelle Monsieur Verdoux, où il joue Landru. Donc, il passe son temps à séduire des rombières. Et il y a un moment magnifique dans lequel, et ça ne peut pas passer à la radio, on ne peut que le raconter, parce que c'est de l'image. La caméra est placée de manière à ce qu'on voit Monsieur Verdoux au téléphone, en train de dire des choses invraisemblables à une femme que l'on voit de l'autre côté, et qui est une rombière épouvantable, et lui dit que ses yeux sont comme des lacs profonds, etc. Et en même temps, dans le même plan général, nous voyons une jeune fleuriste sublimement belle, qui a des vapeurs, parce qu'elle entend le discours de Chaplin. Et il séduit donc la rombière, la fleuriste et les spectateurs.
Alors évidemment, ça n'est pas Monsieur Verdoux, c'est les temps modernes dans notre musette et un modèle d'improvisation. Hein. D'ailleurs, chez Chaplin, il y a vraiment du burlesque. Qu'est-ce que c'est que le burlesque, sinon une perturbation du cours naturel des choses, de la marche du monde, un burlesque qui dérègle, qui brouille, qui s'oppose à l'ordre. Il y a à cet égard une certaine parenté entre l'improvisation et le burlesque, telle qu'on peut la trouver à merveille hein, dans les temps modernes. Le burlesque est un triomphe et une inquiétude, un vertige en ce qu'il fait trembler le monde sur ses bases et révèle un désordre. L'improvisation à cet égard met au jour la fragilité des règles, mais aussi Carole Desbarra peut-être, leur souplesse.
Cette lettre, tu sais dorée, je noterai ce que ferai, je noterai si t'avorerai, je la coule à t'il à toi. La spinage en la bouchon, si grette pote bello, si raquiche pas que l'écho, je la coule à t'il à toi. Signora Pilassine, voulez-vous la teximite? Le junta sous la cita. Tula, 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 wa. C'est mon tia si la meure, le son tia s'entrevore. La zone comme ça, j'ai la peau de sa fille à toi. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule consigne. Je laisse trop sa vite. Je la casse à pile à toi.
Et voilà, ça ne veut rien dire et pourtant tout le monde comprend, comme la musique dont Vladimir Jankélévitch a dit à juste titre qu'elle était d'une précision évasive. 10h50 sur France Culture, on improvise un passage de relais avec vous, Adela Van Rett. Bonjour.
Bonjour Raphaëla, bonjour à tous. Il faut philosopher. Bien sûr, vous avez toujours le choix de ne pas philosopher, de choisir la voie inverse de la sagesse et de célébrer l'absence de vertu et de bonheur dans votre vie. Mais il y a des injonctions plus difficiles que d'autres à ignorer. Il faut philosopher, cette exhortation à la philosophie, on la trouve notamment chez Aristote, dans un ouvrage perdu depuis longtemps et qui porte un nom barbare, le Protreptique, c'est le sujet des jours. Bonjour Sophie van der Meren.
Bonjour.
C'est grâce à vous qu'existe aujourd'hui une édition aux belles lettres qui rassemble des éléments de réflexion sur ce texte perdu d'Aristote, le Protreptique donc, que vous nommez l'exhortation à la philosophie, c'est le titre de ce livre, à partir notamment des écrits de Jean Blic. Jean Blic est un philosophe néo-platonicien, né autour de 250, et dans ses écrits, on a cru trouver, au XIXe siècle, des fragments qui permettaient de reconstituer le texte perdu d'Aristote. Cette histoire est intéressante et intrigante, même à double titre. D'abord parce qu'elle pose la question de la transmission des textes de l'Antiquité sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et il est facile d'oublier que souvent ces textes sont des reconstitutions à partir de fragments et donc que la question de l'authenticité est loin d'être secondaire. Et ensuite parce que ce texte même comporte une injonction à la philosophie, je le disais, qui paraît sans appel, à tel point que vous avez choisi de rebaptiser ce texte l'exhortation à la philosophie. Sophie van der Meren.
Oui, alors effectivement, le premier point sur lequel vous insistez, c'est-à-dire la transmission des textes, est au cœur de cet ouvrage, donc qui est une édition avec une traduction et un ample commentaire d'un ensemble de textes. Alors, seul un petit nombre, en fait, sont réellement attribuables au Protreptique d'Aristote, c'est-à-dire ce texte fondamental, cette invitation à la philosophie, qui est un ouvrage perdu, malheureusement un naufrage littéraire, on pourrait dire. Le reste, c'est-à-dire la majorité du livre étant des extraits d'un autre philosophe qui a écrit une œuvre portant le même titre, un Protreptique, et dans lequel, à la fin du 19e siècle, plusieurs philologues ont pensé reconstituer des fragments du Protreptique d'Aristote. Alors c'est un paradoxe, puisque ces textes, certes, présentent des allures aristotéliciennes, on y retrouve des doctrines aristotéliciennes sur la physique, la métaphysique, la politique, mais jamais Jean Blic lui-même ne cite Aristote. Donc en fait, les éditions modernes du Protreptique d'Aristote sont des édifices finalement fragiles, puisque rien ne nous assure de l'authenticité et de l'attribution au Protreptique. Mais ça fait partie, je dirais, de ces textes de l'Antiquité qui ont été très connus, très travaillés, très repris par les philosophes postérieurs, sur lesquels finalement on a cessé de réfléchir, mais sans avoir véritablement aujourd'hui un contenu qui serait absolument certain. Alors pour ce qui concerne après ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'injonction à la philosophie, c'est, je dirais, le propre du genre, si on peut parler de genre philosophique et littéraire, du Protreptique, que d'inviter effectivement à embrasser une pratique. Alors certes, il y avait des Protreptiques à la philosophie, mais il y avait aussi des Protreptiques à d'autres choses, des Protreptiques à pratiquer la médecine, des Protreptiques à pratiquer la rhétorique, mais aussi bien sûr des Protreptiques à la religion. Parce que derrière, je dirais, l'exhortation ou le discours Protreptique, Protreptique, ça signifie en grec se tourner vers quelque chose, eh bien il y a l'idée que l'homme doit s'engager dans quelque chose, dans une pratique, et il y a bien sûr l'idée de la conversion. Alors c'est de là qu'on voit vraiment le lien entre l'exhortation à la philosophie et l'exhortation à la religion. Pour s'engager dans une pratique, il faut bien sûr s'arracher à quelque chose, c'est-à-dire se détourner, par exemple, du vice, des faux biens, et s'engager sur une voie qui est différente.
Donc cette conversion est en fait une entreprise de perfectionnement. Il s'agit de changer de vie, véritablement.
Oui, il s'agit exactement de changer de vie. Et vous mettez là l'accent sur une spécificité de la philosophie ancienne que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, la philosophie n'est pas simplement un corps de doctrine, comme ça peut être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on étudie aujourd'hui la philosophie à l'université. Dans l'Antiquité, on pratique la philosophie, on la vit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des corps de doctrine, aristotélicienne, platonicienne, etc. Mais la philosophie est d'abord un mode de vie, et les doctrines, aussi bien que les discours théoriques, sont là pour soutenir ce mode de vie, qui est un engagement sur la longue durée. Alors je m'inscris ici dans les, je dirais, dans les réflexions qui ont été très originales de Pierre Hadot, en fait, qui a voulu montrer effectivement cet aspect-là, hein, qui est très important. Et donc l'exhortation à la philosophie se situe dans ce type de réflexion, et le discours d'exhortation est, je dirais, le discours initial qui doit donner l'impulsion à un public non spécialiste pour embrasser la philosophie. Alors si la philosophie est un mode de vie, c'est qu'elle conduit à quelque chose, et ce à quoi elle conduit, bien sûr, c'est la vie vertueuse et le bonheur.
Voilà, donc la philosophie n'est pas juste un mode de vie alternatif, un mode de vie parmi tant d'autres. De la part des philosophes qui appellent à la philosophie, là, qui prononcent cette exhortation, pour eux, la philosophie est une nécessité, une nécessité universelle qui conduit certes un bonheur supérieur, au plus grand bien, mais elle a également une valeur absolue, puisque philosopher, c'est développer sa propre humanité en réalité.
Exactement, le protreptique est lié à une conception de la nature humaine, qui est que l'homme, je dirais, a une nature, des potentialités qu'il doit développer. Alors ces potentialités sont généralement, je dirais, ses facultés intellectuelles, hein, qu'il doit, on pourrait dire, optimiser. Et dans cette perspective, seule la philosophie permet à l'homme d'accomplir cette nature humaine qui est sa finalité, en fait. Et alors, si seule la philosophie est capable de le conduire à cette finalité qui est le bonheur, eh bien forcément, il faut philosopher plus que toute autre chose. Donc le protreptique s'inscrit aussi dans cette optique d'une propagande ou d'une rivalité entre pratiques, puisqu'il y a des protreptiques à d'autres choses. Et donc le protreptique à la philosophie doit montrer que seule la philosophie conduit véritablement l'homme à ce bonheur.
Exhortation à la philosophie, le dossier grec Aristote, c'est le titre de votre livre, donc de ce livre dont vous êtes l'auteur, Sophie van der Meeren. On trouve ça aux éditions Les Belles Lettres, et c'est vraiment très très intéressant, donc j'en recommande chaudement et chaleureusement la lecture.
Et la lecture également de...
Alors non, plutôt d'assister à un séminaire, parce que si la page de votre agenda est encore blanche pour ce soir, vendredi 11 février, eh bien vous pouvez y inscrire ce séminaire sur Internet, organisé par le Collège International de Philosophie, qui aura lieu ce soir de 17h30 à 20h à Paris, à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm. Ce sera la première séance d'un séminaire qui se tiendra chaque mois jusqu'en juin et qui propose d'étudier les dimensions industrielles d'Internet, le système technique qu'il constitue, ainsi que le discours sur les usages d'Internet pour montrer en quoi ce discours relève d'une culture qu'elle sculpte en retour et que l'on peut comparer à d'autres constructions culturelles. Ces discours sur les usages d'Internet attestent souvent d'un écart avec le réel qui appelle des représentations et des idéologies que l'on peut expliciter. À l'origine de ce séminaire, Éric Guichard, qui est maître de conférence à l'ENSIB et qui, au cours des séances de cet atelier sur Internet, posera la question cruciale et plus que jamais d'actualité de l'objectivité de la technique, souvent revendiquée de façon consensuelle par de nombreux analystes d'Internet, malgré la divergence de leurs positions politiques. Je vous conseille d'y aller car, bizarrement, aussi incontournable qu'Internet soit devenu aujourd'hui, il reste peu pensé par les philosophes, et donc c'est une bonne occasion de réfléchir à ces enjeux avec un spécialiste. C'est donc ce soir. C'est organisé par le Collège International de Philosophie et hébergé par l'ENS de la rue d'Ulm. Toutes les informations sont en ligne sur le site des Nouveaux Chemins.
Et oui, Internet, nous aussi, il va falloir qu'on s'y colle. Hein. Merci à tous, c'est la fin de cette semaine sur l'improvisation. Une semaine que vous pourrez retrouver sur Internet, donc, à la page des Nouveaux Chemins, où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, ainsi qu'une bibliographie. Une semaine dont je dois dire à son terme qu'elle fut pour nous tous un bonheur sans mélange. Ce bonheur, on le doit à Carole Beffa, d'abord, dont le génie, je le dis, nous a accompagnés toute la semaine. À Cécile Bacquès, dont la voix a incarné les textes de la semaine. À nos invités, musicologue, cinéphile, philosophe ou historien, à Laurence Millet, notre réalisatrice, si talentueuse d'ailleurs qu'elle va nous quitter provisoirement, elle va quitter l'équipe des chemins pour travailler sur une grande traversée de l'été, Laurence Millet qui va nous manquer et avec qui ce fut plus qu'un bonheur, un plaisir. Et d'ailleurs, changement de décor la semaine prochaine, une rediffusion, histoire non pas de souffler, mais de préparer la suite. La semaine prochaine, donc, on rediffuse une série d'émissions sur Karl Marx, aux antipodes à tous égards de l'improvisation.